Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Là où il y avait une piste d'atterrissage et des champs autour, il y avait un lac. J'ai 50 ans et j'ai jamais vu ça de toute ma vie.
La Corse sous les eaux après le passage de la tempête Fabien, des vents à plus de 200 km/h. Dans le sud-ouest, 95 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce matin. Encore 6 départements en vigilance orange, mais la tempête est en train de s'évacuer, nous dira Valérie Darmon. Trafic toujours perturbé à la SNCF, un TGV sur 2, un TER sur 3, mais les trains affrétés par les enfants, pour les enfants seuls, sont bien partis ce matin.
Je suis contente de passer un Noël, parce que je vais voir mes grands-parents.
T'avais peur de ne pas pouvoir y aller ?
Bah oui.
Un nouvel élément dans le dossier des retraites. Emmanuel Macron renonce par avance à celle de président de la République. Emmanuel Macron, toujours en Côte d'Ivoire, nous serons à Boaké, hommage ce matin aux soldats morts pendant l'opération Licorne en 2004. Et puis nous sommes allés faire le marché pour le menu du réveillon. Idée.
Pour le soir du réveillon, repas léger, avec un apéritif un peu musclé, et puis après du homard avec un bouillon corsé au vin rouge.
Et dans votre menu, il y aura peut-être des Saint-Jacques. Vous verrez avec mon invité, le chercheur Laurent Chauveau, que cette coquille est bien plus qu'un mollusque. Elle dit beaucoup du changement climatique et même elle chante, vous l'entendrez.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Plus que 6 départements en vigilance orange ce midi et seulement 2 pour vent violent, les Alpes-Maritimes et la Corse, signe que la tempête Fabien est en train de s'évacuer. Mais elle aura soufflé très fort cette nuit. On va faire le point avec vous, Marion Gauthier, des dégâts. On commence par la région où les vents ont été les plus violents, c'est donc la Corse.
Oui, le vent a fouetté le Cap Corse à près de 200 km/h, 170 à Bastia. Mais ce coup de vent était attendu. Ce qu'il était moins, ce sont les inondations qui ont isolé totalement Ajaccio. Ce midi, les axes routiers commencent à réouvrir. La ville est à nouveau accessible. Son aéroport, en revanche, reste fermé. Ses pistes sont submergées depuis qu'une digue a cédé hier. Charles était au volant de sa voiture quand des bouchons monstres l'ont arrêté en haut de la côte d'où il a aperçu le tarmac.
Là où il y avait une piste d'atterrissage et des champs autour, il y avait un lac. Voilà. Il y avait un lac avec juste au milieu l'aérogare, la tour de contrôle. On n'a pas besoin de se frotter les yeux longtemps. Hein. On comprend tout de suite que cette fois, c'est l'inondation, c'est la crue centennale. J'ai 50 ans et j'ai jamais vu ça. Je suis natif et j'ai jamais vu ça de toute ma vie.
Et voilà. Impossible de savoir quand l'aéroport pourra réouvrir, Fabienne. L'eau ne s'est pas encore retirée.
Et voilà pour la Corse. Dans le sud-ouest, on en est où ce midi ?
Le vent a aussi battu la côte atlantique, évidemment. Les rafales ont atteint les 130 km/h à Arcachon. En Gironde, on compte seulement 2 blessés légers par des branches d'arbres tombées sur les voies de circulation. Mais il y a de sérieux dégâts sur le réseau électrique. D'après le dernier bilan d'Enedis, environ 95 000 foyers sont dans le noir. Et c'est principalement en Nouvelle-Aquitaine. Les équipes sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité.
Merci beaucoup Marion Gauthier. Valérie Darmon nous a rejoint en studio. On vient de voir que les accès, par exemple, par la route à Ajaccio ont été rouverts, sauf sur le littoral. Il faut s'attendre à quoi dans les heures qui viennent ?
Alors, une amélioration, bien évidemment. Pour l'instant, on a toujours 6 départements en vigilance orange. Plus inondation donc pour la Corse du Sud, où les précipitations restent faibles dans les heures à venir. La décrue qui s'est engagée tout de même partout, qui va se poursuivre tout au long de la journée, et puis surtout la nuit prochaine, qui sera ralentie temporairement par le maintien des pluies tout de même. Les vents associés aux fortes vagues, ainsi que la surélévation du niveau de la mer, qui risque d'engendrer des submersions sur les parties basses aussi jusqu'à 20h. Et puis en Haute-Corse, comme dans le sud, le vent qui est exceptionnellement violent, il a baissé d'un cran, mais il reste encore violent jusqu'à demain matin. Dans les Alpes-Maritimes, cette fois sur les Préalpes de Grasse et les plateaux du proche arrière-pays, les rafales atteignent encore 120 km/h. Et en cours d'après-midi, ces rafales de 100 à 110 toucheront probablement cette fois le littoral d'Antibes jusqu'aux environs de Nice. Et puis l'Ille-et-Vilaine, le Finistère et les Charentes-Maritimes sont en vigilance crue. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est.
Merci beaucoup Valérie Darmon. On vous retrouvera à la fin de ce journal pour voir le temps sur les régions qui ont été épargnées par la tempête Fabien. Trafic toujours perturbé à la SNCF avec comme hier un TGV sur 2, un TER sur 3, mais la SNCF a tenu sa promesse. 14 TGV ont été spécialement affrétés pour faire voyager les enfants seuls. Vous avez assisté Pierre Herbulot au départ de l'un de ces trains Gare de Lyon à Paris. On va dire que c'était le soulagement pour les familles.
Oui, soulagement de mettre son ou ses enfants dans un train, de s'éviter surtout, faut le dire, des heures et des heures de route. Parce que les parents que j'ai rencontrés s'attendaient tous hier encore à devoir rouler aujourd'hui jusqu'à Lyon ou au-delà. Laurent vient de déposer sa fille Margot, 7 ans, à la gare.
coup de bol, on a eu un message de la SNCF et du coup, on a pu lui prendre un billet au dernier moment.
Ça s'est joué hier soir ?
Hier soir, ouais. J'avais pris un hôtel à Lyon, donc j'ai dû annuler l'hôtel à Lyon. Donc j'ai perdu ma réservation à Lyon, mais au moins elle part. Très très soulagé. Pour tout le monde, c'est bien pour tout le monde. Maintenant, on espère juste le retour. Donc on croise les doigts.
T'es contente de pouvoir prendre le train ?
Bah oui, sinon comment je vais aller là-bas ?
Juste à côté, j'ai rencontré Victoire, un an plus âgée qui avait peur de rater son beau programme de Noël chez ses grands-parents.
Bah jouer avec le chien. Et je vais profiter de ma copine qui s'appelle Anaïs. Je suis contente de passer un Noël. Bah parce que je vais voir mes grands-parents.
T'avais peur de ne pas pouvoir y aller ?
Bah oui.
Excusez-moi les parents, le but c'est vraiment d'encadrer les enfants. Donc s'il vous plaît, avancez au niveau des enfants, merci.
C'est parti, 100 enfants se dirigent en file indienne, casquette blanche sur la tête vers le précieux train. Quand soudain, le drame pour la petite Margot qu'on a entendue il y a 30 secondes.
Un petit peu. Pas assez.
J'ai oublié ma lettre à la maison. Oh là là.
La liste de Noël oubliée alors qu'il y avait un train dommage. Bon, les parents m'ont assuré qu'ils allaient la poster dans la journée à sa place. Et puis j'ai vérifié, Fabienne, le Père Noël n'a pas déposé de préavis de grève. Donc, pas d'inquiétude à avoir en plus pour la livraison des cadeaux.
Pierre Herbulot, gare de Lyon, donc à Paris ce matin pour Europe 1. Trafic très perturbé aussi à la RATP. Toutes les lignes sont à l'arrêt dans le métro, sauf les lignes automatiques. Hier encore, Emmanuel Macron a renouvelé son appel à une trêve, appel lancé depuis la Côte d'Ivoire où il est en déplacement. Il est bon aussi de savoir faire une trêve pour respecter l'avis des familles, a dit le chef de l'État. Un appel déplacé pour le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin.
Je trouve que le président de la République, de s'exprimer depuis l'étranger, en Côte d'Ivoire, en appelant les syndicats, en les traitant d'irresponsables, je trouve qu'il y a une forme d'arrogance et de mépris de sa part. Aujourd'hui, c'est dur dans notre pays. Nous vivons une période de tension sociale très dure. Je pense que plutôt que de s'exprimer de l'étranger, il ferait mieux de venir s'occuper de ce qui se passe dans notre pays, de lever cette réforme de retraite et puis de dire on se retrouve tous autour de la table en janvier et on remet tout à plat. Voilà la bonne décision qu'il devrait prendre plutôt que de nous traiter d'irresponsables.
Et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, qui était l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos et autres éléments dans ce dossier sensible des retraites. L'Élysée a confirmé qu'Emmanuel Macron renonçait à sa retraite de président de la République par avance. Information de nos confrères du Parisien. Une décision qui, pour René Dosière, le président de l'Observatoire d'éthique publique, met tout simplement fin à une loi totalement anachronique, celle de 1955.
C'est en tout cas la fin d'une disposition anachronique, puisqu'elle avait été fixée en 1955 à une époque où le président de la République ne dispose pas d'un revenu mais vit sur la dotation de l'Élysée. La situation a été modernisée en 2008 à partir du moment où le président de la République dispose d'un traitement qui est fixé d'ailleurs par décret. J'ajoute que cette annonce demande à être remise en tout cas dans son ensemble. Je pense que ça pourrait d'ailleurs être l'occasion de faire un débat sur le rôle et les avantages dont peut bénéficier un ancien président de la République, débat qui n'a jamais eu lieu dans notre pays. Je pense qu'il y avait des choses plus urgentes à traiter s'agissant des retraites des Français que de la seule situation du président de la République.
René Dosière avec Jean-Jacques Herry. Dans un instant, nous partons en Côte d'Ivoire pour le dernier jour de la visite d'Emmanuel Macron avec une cérémonie ce matin en hommage à 9 soldats tués en 2004 dans un bombardement de l'armée ivoirienne.
Il est midi 40, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoelle.
Et direction la Côte d'Ivoire où Emmanuel Macron achève sa visite avec ce matin une cérémonie à Boaké. Boaké, c'est cette ville du centre du pays qui avait été le théâtre en 2004 d'un bombardement de l'armée ivoirienne qui avait coûté la vie à 9 soldats français de l'opération Licorne, et des soldats français qui assuraient le maintien de l'ordre dans la région. Hommage donc ce matin à ces soldats, alors que cet épisode tragique, Jean-Rémy Baudot, reste une question très sensible entre les deux pays.
Oui Fabienne, les présidents français et ivoiriens ainsi que leurs épouses en silence devant 10 drapeaux, 9 français, un américain, un hommage sobre, sans un mot, au milieu du lycée français de Boaké. C'est ici qu'il y a 15 ans, 9 soldats français et un civil américain ont trouvé la mort, bombardés par des Sukhoi de l'armée ivoirienne pilotée par des mercenaires. L'attaque avait fait aussi 39 blessés. C'est ce bombardement qui a marqué un tournant dans dans la crise ivoirienne de 2004 et qui a envenimé les relations entre France et Côte d'Ivoire. Ici, les bâtiments soufflés par l'attaque ont été reconstruits, mais le lycée porte encore les stigmates du bombardement. Cette cérémonie, elle vient sceller la réconciliation entre nos deux pays, confie l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est la première fois, effectivement, qu'un président français se rend à Boaké. Un haut gradé confirme. Les deux présidents ici, c'est comme le 11 novembre avec François Mitterrand et Helmut Kohl à Verdun, se tenant la main. À la mémoire des victimes, une stèle est dévoilée, mais beaucoup de questions restent posées sur ce drame. Une enquête est en cours, un procès aura lieu, mais sans les pilotes des avions. Les familles attendent pourtant des réponses. Il n'est pas prévu pour le moment la levée du secret défense dans ce dossier.
Jean-Rémy Baudou, envoyé spécial d'Europe 1 en Côte d'Ivoire.
Europe 1 midi 41, Fabienne Lemoelle.
Et vous êtes peut-être en train de cogiter encore sur le menu de votre réveillon. Eh bien Marlène, voilà un reportage de Sophie Echen qui va peut-être vous donner quelques idées.
Très bon foie gras.
Très bien, je vais prendre ça. Et puis vous mettrez deux bocaux de châtaigne, s'il vous plaît.
Valérie commence les préparatifs pour son repas de Noël et elle a déjà un menu précis en tête.
Pour le soir du réveillon, repas léger, avec un apéritif un peu musclé, et puis après du homard avec un bouillon corsé au vin rouge.
Deux jours avant le réveillon, c'est la course. Chacun se précipite pour acheter les derniers produits, quitte à tenter de nouvelles expériences comme Nicole.
Je viens d'acheter une tranche de terrine de langouste. Je voulais la goûter avant de la commander demain pour mes invités.
Et la suite du repas, qu'est-ce que ça va être ?
Des poulardes au marron et raisin. Peut-être des petites pommes de terre, mais sinon peut-être qu'il y aura assez de marrons chez moi. Ils aiment beaucoup les marrons. C'est classique pour un repas. De Noël.
Et qui dit repas de Noël dit forcément bûche traditionnelle au chocolat ou au praliné, mais la tendance ce sont les bûches à base de mousse de fruits, comme l'explique Amélie, employée d'une pâtisserie.
C'est pas de la crème au beurre, on va avoir de la framboise, on va avoir de la mangue, de la coco, c'est pas des saveurs d'hiver mais plutôt d'été, plus léger aussi.
Ce qui est sûr, c'est que le repas est au cœur de toutes les attentions, c'est d'ailleurs la deuxième dépense de Noël, juste après les cadeaux.
Sophie Echen, et dans quelques minutes, on parlera justement d'un de ces produits de fête, la coquille Saint-Jacques. Vous verrez avec mon invité Laurent Chauveau que c'est bien plus qu'un mollusque qui se déguste.
Le journal des sports.
Avec Christophe Lamarre. Je ne vais pas vous demander votre menu du réveillon, mais en tout cas, la Ligue 1 une pause pour les fêtes de fin d'année. On n'a pas le temps. Paris est champion d'automne. Derrière, l'heure est à la distribution des bons et des mauvais points.
Paris, Marseille et Rennes, c'est le podium provisoire à l'issue de la phase aller. Les Parisiens et les Rennais comptent un match en moins, mais la première partie du contrat est remplie. Même chose pour les Marseillais vainqueurs 3-1 de Nîmes hier soir. L'OM est méconnaissable et le doit en grande partie à son entraîneur André Villas-Boas. Une métamorphose illustrée par le défenseur Jordan Amavi, en perdition pendant plusieurs semaines, conspué même par le public, le Français a retrouvé la lumière.
Tout le monde m'a aidé, le coach également m'a beaucoup aidé. Et voilà, personne ne m'a lâché aujourd'hui, ça se ressent sur le terrain, donc c'est vrai que c'est pas facile de jouer à l'OM, je le savais en arrivant. Ça me plaît ces moments-là, c'est de jouer dans des clubs comme ça. Et après c'est vrai que j'ai connu des bons moments en arrivant, après c'est vrai que j'ai plongé pendant un très long moment aussi, mais j'ai su relever la tête et maintenant il faut garder ce cap.
Jordan Amavi au micro de Jean-François Pérez.
Alors Marseille va passer les fêtes au chaud, en revanche du côté de Lyon il était temps que les vacances arrivent.
Hein. Les Lyonnais repartent de Reims avec le point du match nul, un partout, ils avaient pourtant ouvert le score mais la machine s'est brutalement arrêtée, plus rien. Après 20 minutes, le vide, l'OL reste scotché dans le ventre mou de la Ligue 1 à 12 points de la deuxième place. L'entraîneur Rudy Garcia dresse un constat amer de cette première partie de saison.
Ce que je regrette, c'est qu'on ait arrêté de jouer quand on a mené 1-0. On a abusé de longs ballons alors qu'on était très bien dans notre jeu au sol et combiné. Donc voilà, je pense qu'il est surtout temps que 2019 s'arrête. Parce que les joueurs ont besoin vraiment de se reposer et que la première partie de saison n'a pas été facile. On est loin du podium en Ligue 1, mais 19 matchs, si je compte bien, ça fait 57 points. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra en prendre un maximum pour recoller et revenir là où on veut être.
Rudy Garcia avec Cyril de la Morinerie.
Alors, tous ces matchs de Ligue 1 se disputaient à 20h45 hier soir. Côté résultat, ça donne quoi ?
Et nous avons eu droit à un festival offensif, Fabienne. Paris a donc disposé facilement d'Amiens 5-1. Rennes a battu Bordeaux 1-0. Le carton de la soirée pour Monaco qui s'impose 5-1 face à Lille. Montpellier s'est fait plaisir, 4-0 face à Brest. Match nul entre Dijon et Metz, 2 partout. Angers bat Nantes sur sa pelouse, 2-1. Même score pour Strasbourg face à Saint-Etienne.
Et au classement, ça donne quoi ?
Paris est plus que jamais premier devant Marseille et Rennes. Dans le bas du tableau, la situation devient franchement compliquée pour Toulouse et Nîmes. Les Toulousains sont lanterne rouge, les Nîmois avant-dernier. Amiens est barragiste, mais attention, Amiens et Nîmes comptent eux aussi un match en moins.
Un mot de rugby.
La 11e journée du top 14. Trois matchs prévus cet après-midi. Le Stade français affronte Pau en ce moment. La rencontre vient juste de débuter. À 16h50, coup d'envoi de Bordeaux-Bègles contre La Rochelle. Et enfin, à 21h, Toulon reçoit Clermont. Et puis la Coupe du monde de ski alpin à Alta Badia en Italie. Première manche du slalom géant pour le Norvégien Leif Christian Netzvold-Hagen devant le Suisse Marco Odermatt et le Français Alexis Pinturo. Départ de la seconde manche à 13h. À Val d'Isère, la descente féminine a été annulée à cause de la météo.
Merci beaucoup, Christophe Lamarre. Mais la météo, transition toute faite avec Valérie Darmon. Magnifique. La tempête est en train de s'évacuer, on le disait.
Et oui, effectivement, pour preuve, le retour du soleil sur le bassin méditerranéen. Mais le vent n'est pas encore tombé tout à fait. Partout ailleurs, la journée est rythmée par les averses fréquentes et soutenues du sud-ouest au massif central. Sur le nord-ouest, en vallée du Rhône, les giboulées sont entrecoupées d'un peu de soleil, tout comme sur la région parisienne d'ailleurs et les Hauts-de-France. Et partout, le vent continue de souffler, mais de moins en moins. Les maximales, 9 à 13 degrés sur une large moitié nord et l'Auvergne, 11 à 14 sur les plaines du sud-ouest, 15-16 sur le Pays Basque et dans le sud jusqu'à 19.
Merci beaucoup Valérie Darmon. On vous retrouve dans quelques minutes pour la météo des neiges. C'est l'une des reines de la table pour le réveillon, la coquille Saint-Jacques. Je vais vous la faire écouter. Elle chante, figurez-vous. On va en parler avec mon invité Laurent Chauveau, directeur de recherche au CNRS, qui vient d'écrire la coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, aux éditions des Équateurs.
Il est 12h48 et vous écoutez le journal de la mi-journée sur Europe 1. On retrouve Fabienne Lemoyle et son invité.
C'est l'une des stars du réveillon. Vous allez la manger juste poêlée, snackée en carpaccio ou avec une sauce à la crème. Je veux parler de la coquille Saint-Jacques dont nous sommes, figurez-vous, les plus gros consommateurs au monde. Alors je vous vois déjà saliver à l'idée de passer en cuisine. Eh bien, tendez bien l'oreille. Je suis sûre qu'après avoir écouté mon invité, vous allez la regarder avec encore plus d'intérêt parce que ce mollusque est bien plus que ça. Elle chante, figurez-vous, et surtout, elle nous alerte sur l'état de notre planète et de nos océans. Bonjour Laurent Chauveau.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, basé à Brest, en Bretagne. Vous venez d'écrire aux éditions Équateur la coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan. Mais vous êtes avant tout, et je l'ai vu au fil de ma lecture, un amoureux fou de cette Saint-Jacques que vous avez étudié, que vous étudiez encore depuis 30 ans en sillonnant les mers du monde entier. Vous en parlez d'ailleurs très affectueusement. La petite princesse au petit pois, une bestiole peinte par Botticelli, ça vous vient d'où cet amour immodéré pour la Saint-Jacques ?
Ça me vient de, je pense comme vous, c'est un animal qui a une esthétique intrinsèque assez hallucinante, qui est reconnue comme étant belle dès le néolithique. C'est pas Laurent Chauveau qui trouve de la poésie, de l'esthétique tout seul autour d'un animal bizarre. C'est une espèce de symétrie, une couleur nacrée, un blanc immaculé qui est une boîte à deux valves qui s'ajustent parfaitement. Ces éléments-là font qu'on reconnaît une esthétique assez rare dans cet animal. Il suffit de plonger une fois en rade de Brest et la découvrir une fois sous l'eau et de regarder cet animal vivre, le déloger et le regarder nager pour, pas en tomber amoureux, mais y trouver un intérêt évident.
C'est devenu l'objet de vos recherches parce que, on va rappeler l'histoire, vous parlez de la rade de Brest, justement, on est en 63, il y a une urgence déjà avec un hiver glacial, puis il va y avoir la surpêche, et en gros en 1980, si on continue comme ça, il n'y aura plus du tout de Saint-Jacques.
Oui, et en 1980, il y a déjà très très peu de coquilles Saint-Jacques.
Le on stock, en pêche, c'est, je crois, 100 tonnes, c'est
ouais,
ça
entre 100 et 200 tonnes.
Quand on empêchait avant, 2000 tonnes avant
voilà, donc
en
le
63.
Stock est passé de 2000, il y a un facteur 10 entre eux, avant cet hiver et après cet hiver. Pourquoi son stock reste-t-il à ce niveau relictuel pendant 20 ans après cet effondrement? Et la question qu'on nous posait à l'époque, c'est... Pourra-t-on espérer revoir le stock de coquilles Saint-Jacques remonter un jour?
Et c'est d'autant plus important qu'on va le rappeler, on est les plus gros consommateurs au monde de Saint-Jacques. Vous dites dans votre livre 2,5 kg par an et par habitant.
Oui, oui, on consomme tellement de coquilles Saint-Jacques qu'il n'est pas possible de pêcher cette quantité sur nos côtes et on est obligé d'aller en chercher au Chili, au Canada et en Islande.
Ce qui est passionnant justement dans votre ouvrage, Laurent Chauveau, c'est qu'en étudiant, vous découvrez surtout que c'est une véritable sentinelle de la mer, c'est-à-dire...
Une coquille Saint-Jacques, ça fonctionne comme un arbre, ça dépose des stries annuelles, des cernes annuelles, et les biologistes...
On le voit sur la coquille.
On le voit sur la coquille, des alternances de bandes claires et sombres, comme sur un tronc d'arbre. Et on a découvert, et c'est là où on fait un bond en avant, qu'entre ces deux marques hivernales, l'animal fabriquait des stries tous les jours. Et donc, on est passé de quelque chose qui se développe à l'échelle de l'année à un vrai calendrier.
Donc on voit qu'elle grossit, mais surtout ce que vous dites, c'est qu'on voit que quand il y a une pollution, elle l'enregistre.
Voilà, cette chimie-là renseigne sur les propriétés de l'eau. Les pollutions, évidemment, les métaux lourds se retrouvent incorporés dans...
Vous parlez de la pollution de l'Erika ?
Oui, le pétrole de l'Erika était signé, entre guillemets, par du vanadium, un élément qui était surabondant là-dedans et qu'on retrouve dans les coquilles Saint-Jacques.
C'est aussi un thermomètre.
Ça offre la possibilité de décrire la température. La coquille Saint-Jacques est là depuis 25 millions d'années et vous êtes capable, avec une coquille Saint-Jacques, de calculer la température de l'eau de mer. Il y a 25 millions d'années, il suffit de trouver ces coquilles.
Et effectivement, à l'heure où on s'interroge, on l'a vu récemment encore avec le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique, c'est important, j'imagine, cette coquille Saint-Jacques.
C'est très important de développer des outils qui nous permettent de décrire ce qui s'est passé par le passé pour bien comprendre ce qui va se passer ou prédire ce qui va se passer dans le futur.
Alors justement, vous avez parcouru le monde entier. Ce qui est assez fascinant dans le livre, c'est qu'on voit aussi la beauté des océans, la fragilité aussi des océans à travers votre ouvrage. Et puis, il y a quelque chose d'assez mystérieux. On va écouter. Alors moi, j'ai vraiment l'impression d'entendre des percussions. Qu'est-ce que c'est, Laurent Chevaux ?
Une coquille Saint-Jacques, c'est comme vous, ça a besoin de respirer, ça a besoin de se ventiler. Et ça veut dire que les valves d'une coquille Saint-Jacques se ferment assez brutalement pour évacuer de l'eau et réadmettre de l'eau fraîche.
Vous dites c'est une chanteuse.
C'est une chanteuse, c'est le bruit de l'eau qui sort d'une coquille Saint-Jacques.
Pourquoi cette démarche ? Je vais prendre quelques mots à la fin de votre ouvrage. Vous dites « Nous recueillons le boucan de la mer et sa musique comme témoignage. Le monde est beau, il change et il faut s'en souvenir. »
J'avais un vrai besoin et c'est simplement une curiosité. Je voulais comprendre pourquoi cet animal fabrique, et je veux toujours le faire, comprendre pourquoi...
C'est parce que je ne vais pas y revenir, mais effectivement, on a la description de la coquille Saint-Jacques par le menu, son muscle. Moi, j'ai découvert que justement, si elle se caramélise quand on la cuit, c'est parce qu'il y a du sucre dans son muscle.
Oui,
c'est ça,
ouais,
voilà.
Ses réserves énergétiques sont... sous forme
elle
de sucre.
Elle ne fait pas de gras.
Elle
voilà.
Ne fait pas de gras.
Bon,
ouais.
Mais revenons à la musique.
Ouais. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de décrire pourquoi une coquille Saint-Jacques et comment, à quelle heure de la journée, elle fabrique cette marque journalière. Bon, ça intéresse deux personnes sur la planète, moi et peut-être une autre personne que je ne connais pas. Mais on entend très très bien les coquilles Saint-Jacques, on peut surveiller quelles sont leurs activités. On s'aperçoit que si l'eau devient un peu toxique, polluée, ou si l'oxygène vient à manquer, alors elle fait des bruits anormaux. Et comme on entend les coquilles Saint-Jacques, on entend les copines à côté, les voisins, on entend les oursins, on entend les crevettes, on entend un paysage acoustique qui renseigne...
Un véritable orchestre.
Oui, un chorus, un petit capharnaüm. Mais comme on le fait en forêt, vous voyez, on est capable d'entendre des singes hurleurs.
Mais ce n'est pas du tout le monde du silence dont nous avait parlé
Cousteau. Pas du tout. On entend le bruit de la glace, on entend le bruit de l'eau qui fond, on entend la banquise se plaindre.
Vous êtes un vrai poète, Laurent Chevaux. Mmh. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous plongez régulièrement, justement, pour les observer, ces coquilles Saint-Jacques. Qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières années ? On a parlé de l'augmentation de la température, on parle beaucoup des microplastiques.
Alors, si on parle de la Bretagne, le fait marquant, c'est l'arrivée liée au changement climatique de dorade royale. Des poissons sont en train de monter au nord et cet animal, la coquille Saint-Jacques, subit une prédation qu'elle ne connaissait pas il y a 15 ans.
Alors, vous dites aussi, la glace va disparaître, la chanson va s'arrêter, on s'en souviendra si demain est humain. C'est un peu lourd comme constat. Ça veut dire qu'inexorablement, on va vers ce réchauffement climatique ou justement, grâce à ces observations que vous faites, on peut inverser les choses ?
C'est sûr qu'on peut inverser les choses. Il ne faut pas être anxiogène à ce point-là. Il est vrai que c'est en train de fondre. Il faut affronter cette vérité. Les pôles fondent, le Groenland fond et une partie de l'Antarctique va fondre. Quand je dis il faudrait être humain, oui, il faut être humain parce que si vous voulez l'entendre, il faut encore être là. Il est probable que vos petits-enfants ne pourront pas voir ce que j'ai vu et entendu en Arctique et en Antarctique.
On va finir avec Miossec. À qui vous avez inspiré une chanson, Nous sommes.
Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté.
Alors là, on rejoint justement cette urgence à agir. Racontez-nous un peu justement Miossec, il est brestois, donc j'imagine que ça vient de là déjà au départ.
Avec Miossec, on partage évidemment l'amour de la mer, l'amour de la Bretagne et l'amour de Brest et des Brestois. Et voilà un homme capable d'écouter et de transformer une vérité scientifique en de la poésie et quelque chose d'audible pour un large public.
Merci beaucoup Laurent Chauveau, je rappelle directeur de recherche au CNRS. Vous venez d'écrire donc aux éditions Équateur La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan. C'est un travail scientifique, mais aussi on l'a entendu, beaucoup de poésie. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à découvrir cet ouvrage. Et bon réveillon à vous.
Merci beaucoup.
Peut-être avec au menu quelques coquilles Saint-Jacques quand même. Voilà, mieux sec pour nous accompagner, pour accueillir Sophie Larmoyer, parce que vous le savez, à 13h, on poursuit cette tranche d'information avec les carnets du monde. Bonjour Sophie, on part où cette semaine ?
Bonjour Fabienne, eh bien les grands reportages vont nous faire voyager aujourd'hui à Berlin, en Écosse, en Algérie et en Roumanie, parce qu'il y a 30 ans tout juste, le dictateur Nicolae Ceaușescu tombait de manière très violente, on s'en souvient. Jean-François Pérez a retrouvé là-bas de grands témoins de l'époque qui vont nous expliquer pourquoi le pays est toujours marqué aujourd'hui par cette transition vers la démocratie.
Merci Sophie. Dans un instant, la météo des neiges.